d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour à tous. Travailler plus, plus longtemps, voilà en filigrane ce qu'impliquent toutes les réformes de la retraite en cours en Europe. En France, après la révolte des Gilets jaunes, le gouvernement cherche l'apaisement. Des discussions avec les partenaires sociaux viennent de reprendre. Elles doivent durer jusqu'à la fin de l'année. Le projet, c'est celui d'un système universel de retraite à points. En clair, mettre fin aux 42 régimes existants en France et donc les régimes spéciaux qui permettent à certains travailleurs de partir plus tôt à la retraite. Le sujet est explosif. Qu'en pensent les jeunes travailleurs alors que 4 sur 10 pensent ne jamais toucher de retraite ? Reportage à Paris d'Alexis Bédu.
Manifestation contre les retraites, place de la République. Une dizaine de jeunes coursiers sont sur leur vélo. Ils travaillent pour une chaîne de livraison de plats à domicile et sont venus depuis Bordeaux. 1000 km parcourus sur leurs deux roues pour manifester et parler de leur situation. Arnaud Flamand a 26 ans et la retraite, cela lui semble bien loin.
C'est vrai qu'on va vers l'inconnu. Moi, c'est la première fois que je suis en micro-entrepreneur. Franchement, il n'y a pas de contrat, donc on ne sait même pas comment ça va se passer par la suite. Pour nous, on prépare limite notre retraite nous-mêmes. Donc, comparé à la génération d'avant, nous, notre génération, on est complètement perdus. On ne sait pas où on va, vraiment. On va compter là-dessus, quoi.
Compter sur soi-même et sur ses économies. À côté de lui, Hamza, 32 ans, ne se fait guère plus d'illusions sur sa retraite. Comme Arnaud, il est coursier, auto-entrepreneur. Et depuis 3 étés, son employeur, Deliveroo, change les règles de rémunération. Désormais, il est payé environ 3 euros par course.
Hier, une journée de 10 heures, j'ai fait 135 euros en 10h30 de travail, brut. Ça veut dire finalement, je suis à quoi ? Je suis à 70, 80 euros la journée. On cotise, mais on sait très bien que d'ici peut-être 20, 30 ans, ça se trouve, il n'y aura plus de retraite. Et là, peut-être les gens, ils vont faire la révolution, ils vont se réveiller, ils vont se dire, en fait, finalement, l'ubérisation et toutes ces conneries-là, bah, ça paye pas, en fait, en final. On est plus juste en mode précarité et ça commence à nous zoner, quoi, tout simplement. Mais je vais pas vous mentir, moi, mon père, il me disait un dicton. Il me disait, nous, on a la retraite, pensez à mettre de côté parce que je pense que vous, vous aurez pas de retraite. Et je pense qu'il dit vrai.
Parce que la politique à Macron, la politique de régression sociale.
Oui, ça va ? Ouais, je suis à la manifestation, là. Ouais, je manifeste pour mes droits à la retraite.
Virginie Léger est inquiète. Ouais. Conductrice de métro sur la ligne 11 à Paris, elle bénéficie, comme tous les travailleurs de la RATP, d'un régime spécial. La trentenaire a donc le droit de partir à la retraite 7 ans plus tôt que les autres Français. Elle a pris conscience de cet avantage récemment.
Moi, jusqu'à dernièrement, j'y pensais pas, parce qu'on est dans un système où il faut travailler. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans, dans le privé. Et ça ne me plaisait pas. Et aujourd'hui, je trouve qu'il faut que tout le monde prenne conscience des choses. On ne travaille pas pour ne rien avoir à la fin. On travaille pour se préparer à finir nos vieux jours.
Une vie à travailler dans une seule entreprise, c'est du passé désormais. Le monde du travail et les aspirations des jeunes ont évolué. La plupart ont déjà connu une période de chômage et un tiers des moins de 30 ans ont déjà changé de métier. C'est le cas de Thibaut Roussel. Après un premier travail en tant qu'ingénieur dans une entreprise, le trentenaire a créé sa start-up.
Bienvenue chez Alfred Meeting. Donc c'est une start-up qui digitalise l'événementiel.
C'était il y a 3 ans. La petite entreprise marche bien désormais. Elle compte 10 salariés et pourtant lui aussi commence à s'inquiéter pour sa retraite.
La vision de la retraite, elle est assez floue pour moi. Je sais pas trop sur quel pied danser. En plus, j'ai changé de carrière en cours de route, donc ça me déstabilise un peu. Je sais pas si je suis sur les mêmes caisses. Pour moi, c'est un sujet qui est assez compliqué. J'ai essayé de creuser le sujet en montant ma boîte, en voulant savoir sur quel régime je serais. Donc j'ai vu que j'étais pas un auto-entrepreneur parce que moi j'ai monté une SAS. Donc c'est des formats qui sont différents, c'était un peu un cauchemar de comprendre. Mais j'ai bon espoir d'avoir quand même une retraite. Je garde un peu cet espoir-là en moi, même si ça me semble compliqué et je me dis qu'il faut que j'anticipe. Et même avec les collègues, avec les copains, c'est pas du tout un sujet qu'on aborde. Et souvent sur des sujets ou sur une discussion, on apprend des choses, mais la retraite, je crois que c'est le sujet où j'ai jamais appris d'informations en discutant avec des copains.
Thibaut Roussel met de l'argent de côté sur divers comptes épargne, mais il aimerait être mieux accompagné sur ces questions parfois trop techniques. Avec la généralisation d'une retraite par points, le gouvernement espère, je cite, un système plus simple et plus juste, mais les négociations s'annoncent longues. La loi devrait arriver devant le Parlement d'ici l'été prochain.
En Italie, l'idée de partir à la retraite à 67 ans n'est toujours pas digérée. La réforme date de 2011 et porte le nom de la ministre Elsa Fornero qui l'a annoncé. Ce nom cristallise la haine des populistes. Abolir la Fornero est devenu le mot d'ordre de la Ligue et du mouvement 5 étoiles, symbole pour eux d'une Italie qui cède face aux pressions de Bruxelles. Pourtant, l'Italie est aussi responsable de ce retour à la réalité, comme nous l'explique Franceline Beretti.
Décembre 2011, l'Europe est en pleine crise économique et financière. Beaucoup craignent un scénario à la grecque. Quelques semaines après la chute du gouvernement Berlusconi, la nouvelle ministre de la Sécurité sociale, Elsa Fornero, annonce une inévitable réforme des retraites.
Et alors, abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un secondo.
La voix se brise, les larmes coulent, la ministre n'arrive pas à finir son annonce. Il faut dire qu'Elsa Fornero fait le sale boulot. Depuis les années 80, le système perd environ 30 milliards d'euros chaque année. Résultat, l'âge de la retraite doit être porté à 67 ans et les versements deviennent proportionnels aux cotisations. Pietro Ichino est universitaire, spécialiste des retraites. Il était sénateur à l'époque.
La réforme fut très brusque, mais le moment était très dangereux et terrible. L'Italie était à risque d'une bancarotte qui aurait porté des dommages à la société énormes, beaucoup plus que la réforme Fornero. La majorité des Italiens n'a pas compris que c'était indispensable et a pensé que la réforme ôtait des droits qui avaient été acquis pendant les décennies précédentes.
Depuis cette réforme, la Ligue puis le mouvement 5 étoiles n'ont qu'une idée, abolir la Fornero.
Il est très facile pour les populistes de faire passer l'argument que pendant 30 ans, 40 ans, c'était un droit de retraiter à 50 ans. Et ils disent, ton père a pu retraiter à 55 ans, pourquoi on te empêche de faire autant ?
Peu importe si ce système était intenable. Pour beaucoup d'Italiens, la faute ne revient pas à leurs dirigeants, mais à l'Union européenne et aux marchés financiers. Pietro Ichino.
C'est nous qui avons accumulé une dette publique de 2000 milliards d'euros et c'est nous qui avons besoin des marchés financiers pour notre bilan public. Donc c'est notre faute si nous sommes dans cette situation.
Une responsabilité inaudible dans le pays. Le gouvernement Ligue 5 étoiles n'est pourtant pas revenu sur la loi Fornero malgré toutes les promesses. Pour le moment, ils n'ont pas de plan B. Et l'âge de la retraite aujourd'hui reste fixé à 66 ans. Il passera à 67 ans dans 8 ans.
C'est notre nouvelle chronique du mercredi, un mot intraduisible, mais qui nous en dit long sur le pays qui l'utilise. Cette semaine, on va au Portugal avec le mot gérigonça, c'est-à-dire bidule, machin ou engin, suivant les traductions. Jusqu'à il y a 4 ans, ce mot n'était que rarement employé, oublié de la langue portugaise, mais il a récemment été remis au goût du jour pour qualifier l'alliance politique entre les socialistes et les partis de gauche radicale. Et à la veille des législatives du 6 octobre, qui pourrait réélire cette coalition, la gérigonça est dans toutes les bouches, Marilyn Darcy.
Gérigonça, le mot est vraiment devenu à la mode en 2015, après les élections législatives. Il avait été lancé par le vice-premier ministre du gouvernement de droite sortant, vexé de voir sceller une entente cordiale parlementaire entre les socialistes et la gauche radicale, en particulier avec le parti communiste qui n'a jamais pardonné aux socialistes d'avoir abandonné le processus révolutionnaire au lendemain de la révolution d'avril 1974. La gérigonça, le truc, n'était pas censé durer, mais il s'est maintenu 4 ans. Même comme ça, sa définition est toujours aussi alambiquée. Maria Jals, retraitée.
C'est plutôt péjoratif. Bon, je ne connais pas les synonymes. C'est quelque chose qui est mal fichu, bricolé à la va-vite et qui ne va sûrement pas marcher. C'est vraiment un mauvais truc, mal fichu. comment je pourrais dire, ça n'a pas de début ni de fin et ça peut se casser la figure à n'importe quel moment. Il n'y a pas de structure solide. C'est ça, c'est une guérigande, ça, voilà.
Vous l'aurez compris, ce mot vieillot de Gérigonça se résume difficilement, à l'instar de cette alliance politique brinque-ballante. Pourtant, cette chose mal ficelée a tenu les 4 ans de la législature, avec des résultats positifs, le retour de la croissance, l'assainissement des finances publiques et le mieux-être généralisé. Pedro Santos, un jeune papa, préfère nuancer.
Ça n'a pas été extraordinaire, mais en même temps, ça n'a pas si mal marché que ça, compte tenu de ce qu'on a vécu avant, pendant la crise. Ça aurait pu être mieux en raison de la conjoncture économique européenne bien plus favorable. Les politiques auraient pu en profiter davantage.
L'objectif était de rompre avec l'austérité qui a durement frappé le Portugal de 2009 à 2015. À grand renfort de négociations bilatérales entre les 3 parties de la Gérigonça, le gouvernement socialiste d'Antonio Costa a duré alors qu'on lui prédisait une fin très rapide. Isabelle David, politologue de l'Institut des sciences sociales de Lisbonne.
Moi, il a fallu que je le voie pour y croire. Et même encore aujourd'hui, je suis incrédule. Mais le Parti communiste et le Bloc de gauche ont compris que le moment était crucial pour le Portugal. Je crois que les partis plus à gauche ont compris que la droite allait très loin dans l'austérité. Il fallait soutenir l'alliance ou bien la gauche risquait de ne plus jamais pouvoir inverser la tendance libérale.
Y aura-t-il une Gérigonça 2, un nouvel attelage improbable entre tous les partis de gauche? Les sondages le laissent penser et c'est tout l'enjeu du scrutin du 6 octobre.
Au Kosovo, on se prépare à élire de nouveaux députés dimanche. La corruption, l'accès à l'éducation et la santé sont les grands thèmes de cette élection anticipée. L'accès à l'énergie aussi, exemple dans le nord du pays avec le lac de Gazivode. Cette gigantesque étendue d'eau est en partie contrôlée par les autorités serbes. Mais ces eaux du lac sont aussi cruciales pour le Kosovo, notamment pour refroidir ses 2 centrales électriques qui assurent l'indépendance énergétique du pays. C'est un nouvel exemple de l'urgence pour le Kosovo de voir son indépendance reconnue par son voisin serbe 20 ans après la fin de la guerre. Le reportage de Louis Seyé.
Ce lac, il sert à tout le monde, à tout le monde. C'est la Serbie qui donne de l'eau au Kosovo. Les Albanais, eux, n'ont jamais eu d'eau. Jamais, jamais.
Branko fait de grands gestes en montrant les eaux sombres du lac derrière lui. Pour cet ancien ouvrier serbe qui habite sur les collines aux alentours, le lac de Gazivode reflète tous les jours le bras de fer qui oppose Belgrade et Pristina.
L'électricité, elle est amenée par la Serbie. Là-bas, il y a un minimum d'intérêt pour le Kosovo, vous comprenez? Ici, sur les collines autour du lac, il n'y a que des Serbes et rien d'autre. C'est resté comme ça après la guerre qu'il y a eu entre les Serbes et les Albanais. Il y a des pays qui ont reconnu le Kosovo et d'autres non.
Appelé Gazivode en serbe et Ujman en albanais, ce lac de barrage est l'un des plus importants des Balkans. Il a été construit dans les années 80, à l'époque de la Yougoslavie, afin de développer le Kosovo. Situé à cheval entre les deux pays, le lac est aujourd'hui majoritairement peuplé de Serbes, mais ses eaux sont essentielles pour les autorités de Pristina. Adri Nurelari travaille comme conseiller auprès du Parlement kosovar.
Le lac est très utile au Kosovo pour différentes raisons. D'abord, le lac fournit en eau potable une partie importante de la population. Et ce lac est aussi utile, je dirais même indispensable, pour refroidir nos centrales thermiques, qui sont les principales sources énergétiques du Kosovo et qui s'approvisionnent en eau exclusivement à partir de Gazivode.
Les 370 millions de mètres cubes d'eau du lac sont cruciales pour l'indépendance énergétique du Kosovo. Gazivode fournit l'eau nécessaire aux 2 centrales à charbon de Pristina qui produisent 95% de l'électricité du pays. Une eau indispensable pour le futur développement du Kosovo.
À l'époque de la Yougoslavie, le Kosovo a reçu très peu d'investissements publics. À cause des discriminations, il a été laissé sans les investissements nécessaires dont bénéficiaient d'autres régions et endroits de la Yougoslavie, et simplement parce que c'était albanais. À cause de ça, seulement un quart des terres arables du Kosovo ont aujourd'hui accès à un système d'irrigation organisé.
Il y a un an, les dirigeants serbes et kosovars se sont tour à tour rendus au bord du lac de Gazivode pour en revendiquer la propriété. Une nouvelle série de provocations qui montre bien l'importance du lac dans le conflit qui oppose la Serbie à son ancienne province du Sud.
Il faut voir que le lac n'est que l'un des nombreux objets de litige qui sont sur la table des discussions. L'idée derrière le dialogue, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un accord global qui inclut tous les problèmes, de façon à ce que rien ne soit laissé de côté et qui pourrait être utilisé par la suite comme un argument pour délégitimer ce dialogue et nourrir de futurs ressentiments.
This is Kosovo. Dragiša Mijačić est originaire de la région du lac. Il est l'un des principaux experts serbes sur la question.
Ce que disent les autorités du Kosovo, c'est ici, c'est le Kosovo, et ce lac est la propriété du Kosovo. Stop. Il se comporte comme Milosevic dans les années 80 quand il disait « Le Kosovo, c'est la propriété de la Serbie. Si vous voulez vivre ici, soyez un bon citoyen. Si vous ne voulez pas, partez vivre comme un réfugié. » C'est exactement ce que font les Kosovars en ce moment. Ils tirent des profits des eaux du lac, mais ils ne réinvestissent pas auprès des communautés locales.
Selon Belgrade, Pristina volerait l'électricité produite grâce au barrage en la revendant sans réinvestir dans les infrastructures du nord du Kosovo, majoritairement serbe. Le barrage de Gazivode a d'ailleurs été financé grâce à un prêt de la Banque mondiale. Un prêt dont s'acquitte toujours aujourd'hui Belgrade, près de 40 ans après.
C'est une question très stratégique, mais aussi technique. Ce n'est pas tellement une question émotionnelle, comme ça peut l'être sur « Est-ce que le nord du Kosovo va revenir à la Serbie ?» ou « Est-ce que la Serbie va reconnaître le Kosovo ?» C'est un problème essentiellement technique. Et maintenant, la question est de savoir qui a le plus de droits, quels droits, et comment ces installations doivent-elles être gérées.
To operate this facility.
Très présente au Kosovo, l'administration américaine a annoncé son intention d'obtenir rapidement un accord entre Belgrade et Pristina. Mais pour cela, il faudra d'abord relancer un dialogue aujourd'hui complètement bloqué.
Direction la Roumanie à présent, c'est l'histoire d'un jeune qui a bricolé sa camionnette pour en faire un cinéma ambulant. Depuis 2014, Tudor Baciu fait la tournée des villages et a un succès fou dans un pays où il n'y a presque plus de salles de cinéma. Portrait signé Benjamin Ribou.
Comme chaque année, à l'arrivée des beaux jours, Tudor ressort son cinémobile du garage. Ces 5 derniers mois, sa caravane cinéma s'est arrêtée dans pas moins de 55 villes. Privé de 7e art dans son enfance, Tudor a eu envie qu'il en soit autrement pour les enfants de son pays.
C'était mon rêve de parcourir toute la Roumanie en organisant des projections pour le jeune public. J'aurais aimé avoir la même chose quand j'étais petit et ça m'a manqué. Mon public a moins de 10 ans, il y a bien désormais quelques multiplexes et des cinémas rénovés, mais les enfants ne vont voir que des blockbusters. Pour moi, il est important qu'ils voient des documentaires et des films éducatifs.
La caravane de films de Tudor fonctionne à plein régime. En 2019, elle a rassemblé 40 000 spectateurs. C'est bien plus que n'importe quel autre cinéma dans le pays. Après les villages, Tudor s'attaque désormais au parking des supermarchés. Objectif, rendre plus accessible un autre type de cinéma.
J'ai voulu m'adapter à notre époque. Au début, j'organisais ça avec les mairies, mais c'était difficile. J'ai donc commencé ce projet avec la chaîne de supermarchés Kaufland Roumanie. Je projette des films sur leur parking et le public vient en masse. J'essaye de rendre accessible le cinéma au grand public. Il faut tout reprendre de zéro dans la plupart des villes de Roumanie où les gens ne sont jamais allés au cinéma. Je choisis donc des animations et des films accessibles, mais pas n'importe quoi. Des bons films sans trop de clichés. Mon but est que cette expérience de cinéma soit extraordinaire avant de les amener à regarder des documentaires.
Preuve que ça marche, les parents sont eux aussi ravis de découvrir ce cinéma. Ils disent souvent à Tudor que le plus beau cadeau qu'il leur ait fait est celui de redevenir enfant le temps d'un film.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Pour nous retrouver, nous écouter, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr. À demain !